Il est l'heure de vous cultiver un peu sur RFI. Voici Pascal Paradou pour ce faire. Bonjour.
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 Balthazar. La fête commence.
Levez-vous. Qu'est-ce que vous faites là?
Vous voulez assister à notre conversation?
Culture vive.
Il y a du feu, il y a de la terre, il y a la pluie et il y a le souffle de la parole.
À consommer sa modération.
Le monde et moi. Et moi dans le monde.
Parce que le rideau s'ouvre, les douleurs disparaissent.
Culture vive, Pascal Paradou.
Comment ça va? Le passé, pas mal. La preuve, il est toujours là. Repeint de neuf, 20 ans après la chute du mur de Berlin, des artistes restaurent ce que l'on appela le mur de la honte. Et certains fragments peints sont exposés en ce moment à Paris. Thierry Noir, qui fut l'un des premiers à intervenir sur cette frontière de béton, sera à ce micro dans quelques minutes. La réalisatrice Zabou Breitman sera aussi notre invitée. Et là, ça se gâte, car les histoires d'amour inachevées laissent toujours des blessures vives. C'est ce qu'elle raconte dans son nouveau film « Je l'ai mis ». Mais apprécier le gouffre de douleur qui se loge dans l'imparfait du titre. Le reportage, ce sera à Oran, les repérages du nouveau film d'Alexandre Arcadi et Laura Isibor pour la musique. C'est la découverte irlando-nigériane de la soul. Quant au téléphone, aujourd'hui, il sonne à
Londres.
Bonjour Mireille Lelcroix, Londres, mais en fait, vous voulez nous emmener à Brighton sur la côte pour un festival à ses côtés.
Oui, puisque c'est la plus grande manifestation britannique liée aux arts de la scène. Et pour sa 43e édition, le festival a une nouveauté de taille, c'est l'élection d'un directeur artistique, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du sculpteur britannique d'origine indienne, Anish Kapoor. Vous savez, c'est le vainqueur du prestigieux Turner Prize en 1991. Il est connu pour ses sculptures géantes, aux couleurs intenses, très prisées des plus grands musées d'art contemporain. On les retrouve aussi en extérieur. Vous avez peut-être vu ou entendu parler du Cloud Gate, que certains surnomment le haricot géant. C'est une sculpture en acier inoxydable de 100 tonnes qui trône actuellement au Millennium Park de Chicago. Alors c'est la première fois qu'Anish Kapoor travaille en étroite collaboration avec un festival d'art du spectacle. Et pour le remercier, eh bien, les responsables exposent 7 de ses œuvres dans toute la ville de Brighton, dont 2 spécialement commandées pour cette édition 2009, notamment le démembrement de Jeanne d'Arc. Alors j'en parle parce que c'est certainement l'œuvre qui intriguera le plus. C'est une sculpture un peu gore, composée d'un cratère ovale et de 2 énormes troncs couchés sur le sol, et le tout recouvert de poudre de pigments de couleur rouge sang. Et là, en fait, on retrouve le Kapoor qui renoue avec une pratique utilisée pour ses premières œuvres, inspirée de son Inde natale où il voyait des tas d'épices colorées sur les marchés.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir à part les œuvres de Kapoor, Muriel?
Oui, des parades, des spectacles pyrotechniques, des pièces de théâtre, des concerts de musique, de la danse. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un festival populaire. Alors cette année, parmi les événements phares, on attend le collectif théâtral allemand Rimini Protocol, qui vient pour la première fois se produire dans la station balnéaire, mais aussi le musicien Jordi Savall, avec son ensemble Le Concert des Nations, qui va interpréter des morceaux du film Tous les matins du monde, et aussi des compositions de Marin Marais, Lully et Couperin. Et puis le festival a commandé une chorégraphie au Ballet Contemporain de la Belgique, intitulée Achise les cendres.
En effet, c'est assez éclectique. Alors, il y a pas mal de commandes faites aux artistes par les organisateurs du festival de Brighton. Est-ce que c'est la spécificité de cette manifestation ?
Oui, les exclusivités et les commandes d'œuvres originales, c'est vraiment la marque de fabrique du festival, qui met d'ailleurs un point d'honneur à soutenir le travail de compagnies contemporaines internationales. D'ailleurs, le Dôme de Brighton est utilisé depuis de nombreuses années comme lieu de résidence pour divers collectifs. Cette année, c'est la compagnie du chorégraphe d'origine israélienne, Ofesh Shechter, qui investira les lieux jusqu'en 2011. Autre spécificité de Brighton aussi, c'est les open house. En gros, des maisons ou des jardins d'artistes transformés en studios et qui sont ouverts au public pendant toute la durée du festival. Alors vous le voyez, il est très particulier ce festival, aussi très soutenu par toute la région qui y retrouve son compte, hein, puisque la manifestation contribue à sa vitalité économique à hauteur de 20 millions d'euros en attirant chaque année quelques 500 000 spectateurs.
Et ça donne envie de vous rejoindre pour un week-end sur la côte anglaise, Muriel. Merci beaucoup.
Hey, vous me reconnaissez ? Asse-moi.
Zobie la mouche, les négresses vertes, c'était en 1989, l'année d'une certaine nuit.
Le matin, on se stimule et le soir, on vous stupéfie. C'est comme ça.
Culture vive, Pascal Paradou.
La nuit du 9 au 10 novembre 89, le mur de Berlin s'effondrait. 20 ans après, les fragments de cette frontière qui avait des allures de muraille sont exposés dans le monde et notamment en ce moment dans les jardins du Palais Royal à Paris, sous les fenêtres du ministère de la Culture et avec sa bénédiction. Bonjour Thierry Noir.
Bonjour.
Vous êtes l'un des artistes qui a peint sur ce mur de Berlin, parce qu'en fait on n'expose pas du béton mais des peintures. Comment cela a commencé? C'était en 84, hein, je crois, vous étiez l'un des premiers.
Oui, il y a 25 ans à peu près, exactement, fin avril 1984, le mur était juste devant ma porte. Pendant 2 ans, j'ai regardé ce mur où il se passait pas grand-chose. En fait, c'était une angoisse, c'était une mélancolie, c'était vraiment quelque chose de spécial, ce mur. D'ailleurs, on m'a souvent reproché d'embellir le mur. J'ai été obligé à chaque fois de dire, on peut mettre des kilos de peinture sur le mur ne sera jamais beau. Parce qu'il y a eu trop de morts sur le mur et voilà. Mais il fallait toujours l'expliquer parce qu'au début, les gens étaient très agressifs. Il me reprochait même d'agrandir le trou de la couche d'ozone avec mes sprays.
Oui, donc c'était possible en fait d'aller avec, non pas ses pinceaux, mais avec des sprays, peindre sur le mur. Il n'y avait pas de danger particulier côté ouest, hein, j'entends.
Mais le mur n'était pas la frontière, c'est ça qu'il faut, se visualiser. Le mur était bâti en retrait de 5 mètres de la vraie frontière. C'est-à-dire que quand on était devant le mur en train de peindre, on était déjà à Berlin-Est. Et naturellement, c'était interdit de peindre le mur. C'était un délit, fallait toujours faire attention.
Donc vous enfreignez la loi.
Ouais.
Quand vous parlez de spray, en fait, il faut dire que vos œuvres, Thierry Noir, pourraient ressembler à des graffitis, enfin, en tout cas, du street art, ce qu'on appelle du street art. Il faut un peu décrire ce que vous faites. Ce sont des bonshommes, essentiellement, dans des couleurs très, très pétantes.
C'est la peinture au kilomètre, moi je dis... Parce que le graffiti, c'est assez petit, mais là, c'est 5 km de peinture sur 3,60 m de haut. Je crois qu'on peut plus parler de graffiti, c'est de la peinture industrielle.
Vous avez fait donc de la peinture industrielle.
Voilà, on peut dire, oui.
Avec donc toujours ce même personnage, c'est qui ce personnage? Parce qu'il a une drôle de tête, c'est un peu comme un totem avec un gros nez, un œil rond, mais c'est un cercle dans un cercle, et puis il a des très très grosses lèvres.
Oui, c'est très radiophonique, on peut dire, mes peintures, et on peut se visualiser en disant, voilà, c'est les cousins et les cousines du petit chaperon rouge. Gros nez, grosse bouche, gros yeux, grosses oreilles.
Vous le voyez comme ça, le petit chaperon rouge?
Voilà. Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on vous a raconté dans votre enfance?
Voilà, c'est les cousins, c'est pas le petit Japon, c'est les cousins.
Ah oui, c'est les cousins, donc il y a forcément un peu quelques gènes qui ont varié. Alors tout cela, bien évidemment, disparaît en 89, à la chute du mur. Vous vous souvenez de cette nuit du 9 au 10 novembre?
Oui, très bien. Moi, je rentrais chez moi en voiture et d'un seul coup, embouteillage à 23h. Et j'étais obligé de laisser la voiture et de faire la fête à Checkpoint Charlie toute la nuit jusqu'à 14h du matin parce qu'on ne pouvait plus avancer.
Et vous vous êtes dit quoi à ce moment-là?
Bah, c'était un moment magique de ma vie en fait. C'était quelque chose qui se passe qu'une fois dans la vie d'un homme. De voir cette débandade d'énergie, les gens qui pleuraient, qui riaient, les trabans qui passaient pétaradant. Tout le monde voulait aller voir Berlin-Ouest. Voir le luxe, c'était ça le but de tous ces gens après tant de frustration.
Et vous, vous êtes dit, Thierry Noir, moi je peux aller à l'Est maintenant? Est-ce que vous vous êtes dit immédiatement, je vais aller peindre à l'Est?
En fait, c'était possible parce qu'un Français est venu tout de suite avec 1000 tonnes de peinture pour peindre le côté Est. Alors j'ai été invité d'un seul coup à peindre.
Et donc là, vous avez fait des kilomètres aussi?
Non, parce que c'était juste symbolique.
On est dans le souvenir en évoquant tout cela, Thierry Noir, mais ce qui est étonnant, c'est que ces peintures-là que vous avez faites donc avant 89 et après 89 côté Est, aujourd'hui on les restaure. Ça peut paraître un peu paradoxal, pourquoi ? C'est de la nostalgie ?
Ben en fait, c'est le but de la restauration de ces peintures, c'est de conserver le mur en fait. Ces peintures, c'est juste, à mon avis, juste un alibi pour montrer aux politiciens surtout et aux gens qui font partie de la jeunesse, de dire voilà, ce mur est quelque chose de fort, il faut le garder pour pas refaire les mêmes erreurs, parce que si on oublie son passé, il revient encore plus fort. Parce que si le mur était resté blanc, il y aurait longtemps qu'il serait démonté. 1,3 km de mur dans une ville, regardez comme c'est pas du tout comme de la chanson de Lou Reed où en 1973 il disait It was so nice, it was paradise, du bonnet on ice. C'était vraiment le contraire, c'était vraiment l'angoisse.
Et vous êtes d'accord avec ça, cette forme d'instrumentalisation de la peinture?
Ben, à mon avis, oui. C'est d'ailleurs, comme je disais avant, même le fait de pisser sur le mur, c'était déjà politique, parce que le mur, c'était une frontière où il était absolument interdit déjà d'être devant ce mur. Et la peinture était automatiquement politique. Alors voilà, on conserve ce but politique pour, même si on peint des petits oiseaux sur le mur, ça reste fort pour un message.
Alors en même temps, et les 30 fragments que l'on va pouvoir voir à partir de demain, je crois, dans les jardins du Palais Royal, appartiennent à une collection privée. Des artistes de très très grand renom sont intervenus. Il y a des fragments, par exemple, où Daniel Buren est intervenu, ou Armand. C'est de l'art, là, à partir de ce moment-là, ou pas?
Oui, là, cette collection est indépendante. C'est Sylvestre Verger, c'est un collectionneur de Versailles qui a rassemblé tous ces segments et qui a voulu préserver ce côté artistique pour faire le symbole maintenant de l'Europe en marche. Et c'est cette collection qui est là, visible à Paris jusqu'au 1er juin, entrée gratuite.
Vous faites le service après-vente, c'est bien, Thierry Noir. On pourrait dire, cette collection, elle est sous-titrée « Des artistes pour la liberté », mais en fait, on pourrait dire « Des artistes contre l'oubli ».
Exactement, oui. Quand on oublie son passé, il revient. Et c'est vraiment un truc indispensable de dire aux jeunes que, attention, ne refaites pas les erreurs de vos aînés.
Et pourtant, il y a des murs qui s'érigent un peu partout dans le monde. Vous auriez envie, par exemple, d'aller peindre contre les murs qui séparent Israël et la Palestine ?
Eh ben, j'ai réfléchi et puis j'ai dit non, parce que, en fait, moi, j'ai peint le mur parce qu'il était devant chez moi. Je ne suis pas venu à Berlin pour peindre le mur. Ça s'est passé comme ça. Je trouverais un peu ridicule d'aller à Jérusalem pour peindre le mur.
Donc la liberté est une affaire quotidienne,
voilà,
du quotidien.
Je
de
laisse
chacun.
Les artistes palestiniens le fait de peindre leur mur.
Merci Thierry Noir. Ces fragments de murs de Berlin sont donc à voir, vous l'avez dit, jusqu'au 1er juin dans les jardins du Palais Royal, sachant qu'il s'agit de la collection de Sylvestre Verger. Merci beaucoup.
Là, le Grand Hôtel, c'est un hôtel historique de rang où a séjourné De Gaulle, Churchill, Eisenhower, Pétain. Et il y a encore la chambre de Gaulle avec son lit spécial dans cet endroit. Et moi, ce que j'aime dans cette place, c'est sa dimension géographique. C'est-à-dire qu'on est au cœur de la ville et il y a les kiosques, la grande poste, la chapelle et puis les habitations et ces palmiers magnifiques qui sont là. Voilà, c'est un vrai décor.
C'est dans ce décor-là, donc à Oran, en Algérie, qu'Alexandre Arcadi, le réalisateur du Coup de Sirocco ou du Grand Pardon, va tourner son prochain film, Ce que le jour doit à la nuit, d'après le roman de Yasmina Kadra, qui a été un best-seller en France. Alors le tournage commencera l'an prochain, les comédiens ne sont pas encore choisis, ou en tout cas le réalisateur ne veut donner aucun nom, mais les repérages, en revanche, ont commencé, puisque ce week-end, tout ce petit monde, écrivain, réalisateur et ministre, était à Oran pour donc voir où se déroulerait le film, quasiment un voyage officiel, avec dans les bagages Albéric de Gouville.
Ce que le jour doit à la nuit est une fresque qui se déroule en Algérie des années 30 jusqu'à l'indépendance en 1962, essentiellement dans deux lieux, Oran et la petite ville de Rio Salado, devenue aujourd'hui Oued Mella. Pendant deux jours, Alexandre Arcadi et Yasmina Kadra ont imaginé les futurs décors du film, notamment dans plusieurs vieux quartiers d'Oran. Yasmina Kadra.
Oran, bon, elle s'est multipliée par quatre aujourd'hui. Mais les gens sont restés les mêmes et je pense que, comme vous pouvez le constater juste en bas de Santa Cruz, il y a encore des quartiers qui sont préservés. C'est exactement les mêmes quartiers avec les mêmes maisons, les mêmes ruelles de l'époque. Donc je pense qu'avec avec Alexandre Arcadi, il saura restituer à la mémoire de cette ville ses repères d'antan. Mais moi, je suis tellement confiant, d'autant plus que, connaissant les Algériens, ils vont adhérer à ce projet corps et âme, et ils vont vraiment essayer d'aider Alexandre à faire un grand film pour notre pays.
Alors pour cela, les producteurs ont reçu le soutien total des autorités algériennes et notamment du maire d'Oran, Sadek Benkada, qui estime que le futur tournage constitue une très bonne nouvelle pour sa ville.
Une très bonne nouvelle, effectivement, parce qu'Oran a été toujours un espace et un lieu de tournage de films dès le début du cinéma. Et adapter un roman algérien au cinéma par un réalisateur et metteur en français, ça nous fait un très grand honneur.
Il y a une volonté de la ville de voir le film se tourner dans ces lieux-là, parce que c'est vrai que j'aurais pu me tourner vers d'autres lieux du Maghreb, où j'aurais transformé certains lieux en faisant croire à la présence d'Oran, mais c'est tellement mieux ici. Et vous savez, il y a une certaine époque, quand j'ai commencé mon premier film, Le Coup de Sirocco, je rêvais tellement d'inscrire le film en Algérie que je n'ai pas pu le faire à l'époque. Les autorités étaient un petit peu plus... Ils étaient frileux, ils ne savaient pas. Bon. Donc je me suis tourné vers un autre pays d'Afrique, du Nord, la Tunisie. Et là, revenir tourner entièrement un film ici, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à un metteur en scène.
Et le projet a même reçu le soutien du gouvernement français en la personne de Fadela Amara, secrétaire d'État à la politique de la ville, qui était présente pour ses premiers repérages.
C'est un magnifique symbole parce que Yasmina Kadra est un écrivain francophone algérien. C'est une plume avec un immense talent. Et c'est vrai que cette alliance entre Alexandre Arcadi, cet enfant d'Algérie, né dans la Casbah, d'origine juive, avec cet immense talent qu'est Yasmina Kadra, qui est un enfant de l'Oranais, et cette manière qu'ils ont tous les deux de vouloir mettre en place ce projet, cette affection, cet amour profond qu'ils ont pour ce pays-là, c'est vrai que pour moi, ça me touche beaucoup. Et puis je me dis que, en fait, est-ce que c'est pas ça l'UPM ?
Voilà, et avant même le début du tournage, le film est déjà, si l'on en croit Fedela Amara, un symbole de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée. Il est vrai que parmi les producteurs, il y a notamment les Français d'Alexandre Film, les Algériens des films de la Source et aussi le Tunisien Tarek Ben Amar, avec au bout du compte, pour 17 millions d'euros, un long métrage de cinéma et une série télévisée qui sera diffusée sur France Télévisions.
Ce que le jour doit à la nuit. En attendant de voir ce film qui sera donc signé Alexandre Arcadi, film qui n'existe pas encore, vous pouvez toujours lire le roman de Yasmina Kadra, édité chez Julliard en France et aux éditions de la Cédia en Algérie. Je crois que le tirage est de 6000 exemplaires, il est déjà épuisé, ce qui est un best-seller dans ce pays. De cinéma, on va encore en parler dans quelques minutes avec Zabou Bretzman, dont le film existe bel et bien et dont on parle beaucoup, c'est Je l'aimer. Culture vive à suivre.